Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idée Noire, sur le 102.2 de Radio Canus, ça n'a pas changé. L'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on est parti pour une heure.
Et
une
oui, on est quand même là.
On n'avait rien à faire. On s'est dit, tiens, si on allait faire un bout d'émission, il y a pas mal de choses, je pense, dans le programme de ce soir.
Donc voilà, puis vous aurez peut-être le générique en plein la semaine prochaine, on verra.
Bah oui, on est toujours en panne de cassette.
Ça, c'est pas grave, on va essayer de le choper autrement. Je l'avais dit la semaine dernière, mais c'est pas grave, on l'a pas fait. Pour démarrer, alors, ça va.
Pour démarrer, on peut dire peut-être que samedi, il y aura pas de permanence.
Il y aura pas de permanence à la plume noire, voilà, parce que du coup, il y a pas beaucoup de monde de disponible là en cette fin d'année, ce qui est un peu normal aussi. Hein. Mm-hmm. Donc, il y aura pas de permanence au samedi après-midi. Elles reprendront donc mercredi prochain de 17h à 19h. Donc voilà, et puis on va démarrer donc comme un peu comme la semaine dernière, pas mal d'infos en vrac. Je voulais vous parler pour démarrer ce soir du collectif Kotchenko. On avait parlé plusieurs fois dans l'émission, il y avait même une action, une ou deux actions sur Lyon qui avaient été menées par le collectif La CLAF, hein, la campagne libertaire antifasciste. Et donc du coup, c'était pour vous remettre, il y a un bulletin du coup qui a été créé, le numéro 1 est sorti en novembre 2015, donc tout récemment. Je vais vous lire un peu le texte d'intro. Donc voilà, l'État russe a condamné Alexandre Kotchenko à 10 ans d'emprisonnement, Gennady Afanassiev à 7 ans et Oleg Sentsov à 20 ans de la même peine. L'accusation de terrorisme qui a servi à couvrir ces ignobles décisions d'un tribunal qui exécute les ordres du pouvoir politique russe n'a aucun fondement. Depuis plusieurs mois, nos organisations ont lancé une campagne pour informer de la situation faite, notamment à Alexandre Kotchenko, connu en Crimée pour ses engagements antifascistes, syndicaux, anarchistes, écologistes. Nous soutenons bien entendu aussi le cinéaste Sentsov, Afanassiev, ainsi que toutes et toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la répression du régime de Poutine. Désolé, c'est sur la gorge qui...
oui, ça picote et ça gêne.
Alexandre Kotchenko, donc Oleg Sentsov et Gennady Afanassiev, sont condamnés à des années de camp de travail parce qu'ils luttent contre l'oppression exercée par l'État russe, tant sur le territoire russe qu'en Crimée. Celle-ci est inadmissible et nous saluons celles et ceux qui résistent. Ça va être dur. Kotchenko est étudiant et militant syndical. Il travaillait aussi comme postier en parallèle de ses études. Il défend activement par sa pratique le droit de s'organiser librement, le droit de créer et faire vivre des organisations associatives, syndicales, écologistes ou politiques. Il fait partie des hommes et des femmes qui luttent contre l'extrême droite, qu'elle soit ukrainienne, russe ou autre. C'est compliqué. Parce qu'il lutte contre la corruption et pour l'égalité des droits entre tous et toutes. Kotchenko est la cible des clans oligarchiques en Russie et en Ukraine. Kotchenko milite pour le droit de chaque peuple à décider de son avenir.
Oui, c'est l'hiver. Hein.
À travers Kotchenko, ce sont les libertés démocratiques de tous et toutes et de toutes que nous défendons. Notre démarche, comme celle d'Alexandre Kotchenko, s'oppose donc à celles et ceux qui veulent restreindre ces libertés. Nous exigeons la libération donc de Kotchenko, de Afanassiev et du cinéaste ukrainien Sentsov. Pour la libération immédiate donc des trois personnes et pour les libertés démocratiques dans tous les pays, nous appelons à amplifier la solidarité internationale afin de dénoncer leurs enlèvements et leur détention par les autorités russes, exiger leur libération immédiate et pour que le gouvernement ukrainien revendique explicitement leur libération. Nos organisations donc, qui font partie de ce collectif se réunissent régulièrement pour décider des actions à mener en France pour obtenir la libération des prisonniers et prisonnières politiques de l'État russe. Nous sommes en lien avec des mouvements de nombreux autres pays. C'est une campagne internationale que nous menons pour la liberté de nos camarades et contre le terrorisme d'État du pouvoir politique russe. Et on va vous lire aussi un petit peu ce qu'il y a dans ce bulletin. C'est la déclaration d'Alexandre Kotchenko, donc lors de son procès qui s'est tenu au mois d'août 2015. Je réfute l'accusation de terrorisme. Ceci est un procès fabriqué et motivé par des raisons politiques. La meilleure preuve est qu'on m'a arrêté pour avoir endommagé en tentant d'y mettre le feu la porte d'un local, mais cet acte de vandalisme n'a été requalifié en acte de terrorisme que 10 jours plus tard, sur le 13 mai, quand Afanassiev et Tcherny ont été obligés de témoigner dans le sens qui convenait à l'enquête. La formulation de l'acte d'accusation est en elle-même un chef-d'œuvre, a participé à une tentative d'incendie pour déstabiliser les organes du pouvoir en Crimée avec le but de faire pression sur le gouvernement russe pour qu'il accepte de désaxaner la Crimée. Ouh. Dans le droit fil de cette logique, les gens qui utilisent un préservatif pourraient être accusés de vouloir la déstabilisation démographique du pays et de porter atteinte aux forces armées en empêchant la naissance de futurs soldats. De même, on pourrait traiter de crime le fait de critiquer un fonctionnaire, car cela ruinerait à l'image du pays sur l'arène internationale. On pourrait faire toute une liste de ces formulations extravagantes. Pendant le procès, nous avons pu entendre des témoignages prouvant que Sentsov et Afanassiev avaient été torturés par des agents du FSB, et ce sont ces gens-là qui osent nous traiter de terroristes. Tous ces procès qui ont lieu en Russie, en plus d'une autre et de celui de Nadejda, Savchenko ont pour but de prolonger la vie de ce régime, alors qu'en nous jetant en prison, ce régime rapproche lui-même le moment de sa fin. Et ceux qui croyaient encore en la justice et l'ordre commencent à perdre confiance, car ils voient que ce qui se passe. Demain ou après-demain, ce sont vos fameux 86% qui renverseront eux-mêmes ce régime autoritaire. Je voudrais encore ajouter ceci dans la lettre Kafanassiev a écrit dans sa prison, depuis la prison de Rostov et dont Dimitri Dins a fait lecture ici, on apprend qu'un agent du FSB lui avait dit un jour « Le jour où tu vas déposer au procès sera le jour le plus important de ta vie ». Apparemment, cette phrase a frappé son cœur et sa conscience et il l'a interprétée à sa manière. Je veux saluer le courage qu'il a fallu à Afanassiev pour prendre la décision de revenir sur le témoignage qu'on lui avait extorqué. Je voudrais également remercier ceux qui nous soutiennent, Oleg et moi. Je suis d'accord avec les arguments de nos avocats. Ils sont justes et raisonnables. Pas question pour moi de demander quoi que ce soit à ce tribunal. Nous allons boire un petit coup, du coup. Hein.
Allez, on lève le coude aussi, ici, de temps en temps.
Voilà. Voilà. Donc vous verrez, sur ce bulletin, il y a aussi forcément un soutien qui est appelé pour participer à la campagne unitaire. Donc vous pouvez vous rendre sur le site, vous tapez Collectif Kotchenko et vous trouverez tout ça. Donc voilà. Pour cette première page, on va voir si on arrive à aller plus loin que ça ou pas.
T'attaques la seconde.
Oui, on va essayer. Surtout que la deuxième est un peu longue. Donc on va voir. On va parler de violence policière. Avec des trucs qui se passent dans le 93. Avec un comité de soutien des amis de la famille Kreker. Vous avez sûrement peut-être entendu parler de ce qui se passe là. Elle organisait une conférence de presse, c'était aujourd'hui, au 21 UDOG à Pantin, à 16h, afin d'informer en détail des événements survenus et annoncer la création d'un comité de soutien des amis de la famille Kreker afin que la vérité et justice soient faites quant aux préjudices qu'ils viennent de subir à vie. Voici le communiqué de presse de ce comité de soutien. Lundi 14 décembre 2015 à Pantin, dans le quartier Auger, Zara Kreker, 45 ans, mère de famille, de 4 enfants et travailleuse sociale à la mairie de Paris, rentre de son travail aux alentours de 14h45. Approchant de son domicile, elle aperçoit son fils Bilal, 18 ans, à genoux et hurlant de douleur. Elle apprend ainsi de sa bouche que suite à un contrôle d'identité, il vient de subir un passage à tabac et que les policiers l'ont abandonné sans soin sur le bitume. Touché au testicule, sa mère le conduit aussitôt à l'hôpital pour qu'il puisse être hospitalisé d'urgence. Les examens médicaux révèlent l'écrasement d'un testicule avec formation d'un hématome. Suite à un violent coup de genou porté par un des policiers, il est alors hospitalisé et opéré sur le champ dans la nuit du 14 au 15 à 3h du matin. Le mardi 15 décembre, à sa sortie de l'hôpital à 18h, et comme le permet la loi, Bilal se rend avec ses parents pour porter plainte au commissariat de Pantin, dont sont issus les policiers incriminés. Ils essuient un refus d'enregistrer la plainte et se voient forcés d'aller porter plainte dans un commissariat du 19e arrondissement. 15 jours après, le 26 décembre 2015, Zara Kreker entre dans son appartement lorsqu'elle entend une forte déflagration venant de l'extérieur. Inquiète, elle regarde par la fenêtre et demande aux jeunes présents au pied de l'immeuble ce qui a bien pu se passer. Les jeunes lui apprennent que son fils Bilal vient d'être arrêté, menotté et enfermé dans une voiture de police. Prise de panique au regard notamment de l'état de santé de son fils, pieds nus, elle descend au bas de l'immeuble pour s'enquérir d'elle-même de ce qu'on vient de lui apprendre. Malgré ses demandes réitérées cordialement pour connaître les motifs de son arrestation, elle est prise à partie par les policiers et la passe aussi à tabac en aspergeant de gaz lacrymogène. Wassil, un de ses fils âgés de 15 ans et demi, arrivant sur les lieux, assiste traumatisé au tabassage de sa mère. Alors qu'il leur demande d'arrêter, il se voit subir à son tour un passage à tabac. Depuis, Wassil et Bilal, ainsi que 4 autres jeunes mineurs, ont été placés en garde à vue. Dans le contexte actuel de multiplication des abus policiers, au moment où l'expression d'une parole raciste se libère ouvertement face à cette situation tragique qui vient injustement frapper une famille qui vivait jusque-là tranquille, honorablement et sans aucun problème à Pantin, alors que des rumeurs courent déjà pour salir la réputation et la dignité d'une femme qui n'a rien à se reprocher, la famille Kreker organise une conférence de presse, donc c'était tout à l'heure, afin d'informer en détail des événements survenus et annoncer donc cette création du comité de soutien des amis de la famille Kreker, ainsi que vérité et justice soient faites quant aux préjudices qu'ils viennent de subir à vie. Donc voilà pour cette petite brève violence policière sur Paris notamment. C'est pas la première fois et malheureusement ce sera pas la dernière. Et je voulais en profiter pour faire un bon point. Alors on l'avait déjà fait une fois, mais là il y avait un article aussi assez intéressant trouvé sur les violences policières aux États-Unis et surtout sur le racisme et la militarisation, la face cachée de la police américaine. Voilà, je vais vous lire tout ça si j'y arrive. Le 19 avril, dans la ville américaine de Baltimore, donc Maryland, si vous en souvenez, un drame s'était répété. Freddie Gray, on avait parlé, un homme noir de 25 ans, est mort des suites d'une fracture des vertèbres cervicales, une semaine après son arrestation musclée par 3 policiers pour possession d'un couteau. Après plusieurs soirs de rassemblements populaires, la police de Baltimore a reconnu, le 24 avril dernier, que le jeune homme aurait dû recevoir une assistance médicale aussitôt après son arrestation. Une vidéo filmée par un passant le montre immobilisé au sol, hurlant de douleur, après avoir été immobilisé par les 3 agents. Sa moelle épinière a été sectionnée à 80% au niveau du cou, selon l'avocat de sa famille. Par rapport à cette affaire, 6 policiers sont donc poursuivis, notamment pour meurtre et violence volontaire. C'est pas souvent que les policiers sont poursuivis aussi là-bas. Donc c'est intéressant de le souligner. Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu qui a vu en quelques mois se multiplier les cas d'hommes noirs tués par des policiers blancs dans des situations souvent troubles. On se rappelle la mort de Michael Brown, un policier abattu par un policier à Ferguson, qui avait suscité en août de violentes confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre, tout comme la décision du grand jury de ne pas poursuivre le policier auteur des tirs. 3 éléments sont utiles pour comprendre l'indignation et l'émotion suscitées par ces événements. D'une part, loin d'être isolé, ces drames s'ajoutent à une longue liste de violences policières. D'autre part, on assiste depuis une vingtaine d'années à une militarisation de plus en plus importante des policiers poussée par une puissante industrie de la défense. Enfin, tout cela a lieu dans une Amérique qui peine à éradiquer un racisme systémique et où les préjugés sont tenaces. Donc, il y a tout un paragraphe qui refait un peu une histoire de brutalité policière. La liste est longue, la mémoire collective se souvient évidemment de l'affaire Rodney King, tout le monde, cet homme noir passé à tabac en 91 par des policiers dont l'acquittement avait déclenché de violentes émeutes. Lui n'en est pas mort, mais pour de nombreux autres noirs aux États-Unis, innocents, non armés, l'usage excessif de la force tue. Alors en 2015, il y a quelques exemples. Walter Scott, noir, 50 ans, en Caroline du Sud, après un banal contrôle routier pour un feu cassé, il est abattu de 5 balles par un policier qu'il poursuivait dans un jardin public. La légitime défense invoquée par l'agent Michael Slager a rapidement été remise en question par la révélation d'une vidéo filmée par un témoin. Heureusement qu'il y a des fois des vidéos. À aucun moment on ne le voit menacé par Walter Scott. Donc ce policier-là a été inculpé pour meurtre, placé en détention provisoire et licencié. Il y a eu d'autres affaires en 2015. Eric Harris, 44 ans, le policier en fait a fait une erreur, il croyait utiliser son taser et en fait il a utilisé une arme à feu.
C'est ballot. Ça se ressemble pas.
Ouais, quand on voit qu'en France on commence à armer un peu tout le monde, un peu peur. Donc voilà, quand même ce flic a été quand même inculpé pour homicide involontaire. Il y a aussi Christian Taylor, pareil abattu par la police. Le flic l'a été licencié en attente du grand jury. Et Kitonio Le Grillet, qui lui souffrait de troubles mentaux, qui a aussi été abattu, c'est très récent, ça, par la police. Il y a une mère de famille aussi qui s'est pris des balles parce qu'elle était derrière la porte. Donc voilà, là aussi, l'enquête est en cours. On se rappelle un petit peu comment ça se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a, pour que les romans, il y ait des poursuites engagées, il faut qu'il y ait un grand jury qui se réunisse et qui prenne la décision pour savoir si l'affaire va aller plus loin, va aller au tribunal ou pas. Donc quand le grand jury décide que c'est pas le cas, il n'y a pas de suite judiciaire. En 2014, on s'appelle de Eric Garner, un noir, 43 ans, à New York, soupçonné de vente illégale de cigarettes. Il est victime d'une arrestation musclée sur le terminal portuaire de Staten Island. Non armé, l'homme en surpoids et asthmatique se plaint de ne pouvoir respirer à plusieurs reprises. Étranglé par les policiers, il perd connaissance sur le bitume et meurt quelques instants après son arrivée à l'hôpital. Là, pas de poursuite, elles ont été abandonnées. Il y a eu un accord entre la ville de New York et la famille d'Eric Garner, un accord de 6 millions de dollars. On sait que ça aussi, c'est une spécificité de la justice américaine, ça, savoir à pouvoir négocier les poursuites. En 2014 aussi, Tamir Rice, noir, 12 ans, dans l'Ohio. Donc, le jeune garçon joue dans la rue avec un pistolet factice qui s'amuse à pointer sur les passants. Quand un témoin prévient la police, peu après, 2 agents descendent d'une voiture et l'un d'eux, Timothy Loman, abat Tamir Rice alors qu'il semble vouloir prendre quelque chose à sa ceinture. Les poursuites ont là aussi été abandonnées. On a aussi Laquan McDonald, 17 ans, 16 coups de feu, il a reçu. Le flic a quand même été inculpé pour meurtre avec préméditation, quand on tire 16 balles dans quelqu'un. En 2013, Jonathan Ferrell, noir, 24 ans, en Caroline du Nord, blessé dans un accident de voiture et ensanglanté, il sonne chez une dame pour demander de l'aide. Elle prend peur et appelle la police. L'agent Randall Kerrick lui tire 12 fois dessus. 10 balles l'atteignent, il n'était pas armé. En 2012, Ramerley Graham, noir, 18 ans, New York, suspecté de détenir de la marijuana, poursuivi jusqu'à l'appartement de sa grand-mère où les policiers pénétrèrent sans mandat et l'abattent d'une balle dans la poitrine devant son petit frère de 6 ans. Il n'était pas armé. Tarika Wilson en 2008, noire, 26 ans, dans l'Ohio. À la recherche de son compagnon, une unité spéciale, le SWAT, pénètre dans la maison de Tarika Wilson où elle est abattue. Son fils de 15 mois qu'elle tient dans les bras est blessé. Elle n'était pas armée. Aux quelques centaines d'homicides commis par des policiers chaque année, 497 rien qu'en 2009 sont les estimations de l'American Civil Liberties Union. Il faut opposer le fait que très souvent, quel que soit le degré d'excès d'usage de la force, les responsables sont acquittés quand ils ont été mis en examen. En 2013, Andy Lopez, hispanique, en Californie, l'adolescent a été surpris dans une allée avec une arme en plastique. L'officier Gelhouse a tiré 8 balles en l'espace de 6 secondes, dont 7 ont atteint Andy Lopez. Aucune charge n'a été retenue. En 2006, Sean Bell, noir, 23 ans, New York, au petit matin de son mariage, Sean Bell et deux amis sortent d'un club. La voiture poursuivie par la police est à l'arrêt lorsque les officiers déchargent 50 balles. 4 balles tuent Sean Bell, ses amis survivent à 19 et 3 balles respectivement. 3 des 5 policiers ont été jugés pour homicide et mise en danger. Ils ont été reconnus non coupables. En 99, Amadou Diallo, noir, 23 ans à New York, confondu avec un violeur recherché. Amadou Diallo est abattu devant chez lui par 4 policiers en civil alors qu'il leur tendait ses papiers d'identité pour s'identifier. Il est touché par 19 des 41 balles tirées. Les 4 policiers sont acquittés. Parfois, sous la pression de l'opinion publique ou d'un contexte politique particulier, les policiers sont condamnés. La lourdeur des peines est bien sûr variable. En 2009, pour Oscar Grant, 22 ans, noir, en Californie, arrêté avec plusieurs personnes sur le quai de la station Fruitvale, Oscar Grant était menotté et à plat ventre quand l'officier Merchel lui a tiré dessus dans le dos, expliquant plus tard qu'il a confondu son arme avec son taser. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, formidable. La scène qui avait été filmée par nombreux témoins. Merchel a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 2 ans de prison. En 2006... Catherine Johnson, 92 ans, noire, Atlanta, en Géorgie. Probablement sur de fausses informations, une unité spéciale de police envahit la maison de Catherine Johnston et la recherche de drogue. Effrayée, elle tire un coup de feu avec un vieux pistolet ne blessant personne. Les policiers répliquent en déchargeant 39 balles, donc 6 atteignent la vieille dame. Mourante, elle est menottée au lit. Les policiers tentent plus tard de maquiller la scène, cachent de la drogue chez elle et demandent à l'informateur un faux témoignage. 3 officiers ont été condamnés à 10, 6 et 5 ans de prison pour différents chefs d'accusation. Homicide volontaire, faux témoignage, parjure. Et enfin, dernier exemple. En 1997, Abner Lumia, 30 ans, noir, New York. Après une bagarre entre deux femmes dans laquelle lui et plusieurs hommes interviennent, la police arrive. Elle arrête Abner Lumia sur la fausse accusation d'un coup porté à l'officier Volpe. Dans la voiture, les policiers le frappent avec leurs poings et leurs radios. Au commissariat, les violences se poursuivent jusqu'au viol lors duquel Abner Lumia a les mains menottées dans le dos. Il est resté hospitalisé 2 mois. Justine Volpe a été condamnée à 30 ans de prison pour avoir enfreint les droits civiques de l'OUMA pour obstruction à la justice et faux témoignage. Charles Schwartz a été condamné à 15 ans de prison pour avoir aidé Volpe lors du viol. Donc voilà, après il y a certaines statistiques hein, de 2003 à 2009, le bureau de la justice rapporte 4813 morts liées à une arrestation dont les causes sont pour 5% naturelles, 5% inconnues, 6% accidentelles, 10% d'intoxication, 11% suicide et 61% d'homicide. Ils ont fait aussi une répartition raciale un petit peu en pourcentage sur par rapport à la population américaine. Donc 63% de blancs, 12% de noirs, 16% d'hispaniques et 7,8% classés en autres. Et il y a le lien qui est assez intéressant qui est fait sur l'article, c'est la militarisation de la police voilà, et l'usage excessif de la force. Il faut savoir qu'il y a 4,3 milliards de dollars transférés par le ministère de la Défense à la police en équipement militaire et paramilitaire entre 90 et 2012, selon le rapport de l'association dont on parlait tout à l'heure. Que plus de 500 agents de police aient reçu un véhicule blindé au cours de l'année 2011-2012 pose question sur la nécessité de tels équipements conçus pour des zones de combat militaires, mais aussi sur les intérêts commerciaux et financiers de cette politique. Ainsi, Lockheed Martin, fabricant d'armes, recevrait chaque année 29 milliards de dollars du Pentagone, selon William Hartung, expert en sécurité et emploie plus de 130 000 personnes. On peut aussi citer l'entreprise ATK, principal fournisseur de munitions de petit calibre, dont le chiffre d'affaires atteint 2,9 milliards de dollars et qui est basé dans le Missouri. Donc voilà, depuis les années 80, les unités spéciales d'intervention, le SWAT, équivalent du GIGN en France, se sont développées à un point tel que Peter Kraska, professeur à l'université Eastern Kentucky, estime que plus de 80% des villes de plus de 25 000 habitants en possèdent une. Il estime aussi que ces unités créées pour gérer des situations à haut risque, telles que les prises d'otages, sont désormais déployées plus de 50 000 fois par an, contre 3 000 en 1980. Lourdement armées et dotées d'un véritable arsenal militaire, ces unités sont en fait largement utilisées dans le cadre d'opérations de faible intensité, comme l'exécution de mandats de perquisition. L'effet de terreur produit lors de ces interventions touche de façon disproportionnée les minorités, au premier rang desquelles les Noirs. Une équipe du SWAT inspecte des maisons, voilà. Donc, on peut voir des unités d'élite déployées pour des infractions mineures. Donc, 79% concernant des mandats de perquisition, 7% sur des prises d'otages et 14% pour autres. Voilà. 62% des déploiements de ces unités concernent donc des mandats de perquisition pour des affaires de drogue. En 2011-2012, le déploiement des unités SWAT a concerné pour 20% des blancs, 11% des hispaniques, 39% des noirs. Pourtant, comme le montre l'exemple de Ferguson, le suréquipement accroît les violences et les risques, tant pour les policiers que pour les citoyens, en encourageant les policiers à adopter des comportements de militaires, chargés de combattre un ennemi intérieur au lieu de protéger et de servir la population. Par ailleurs, casqués et méconnaissables, les policiers sont déshumanisés et s'exposent à des réactions plus hostiles. Les préjugés et stéréotypes raciaux permettent de comprendre comment un policier armé peut se sentir menacé par un adolescent, un adolescent innocent et non armé, en l'occurrence Michael Brown, au point de lui tirer dessus à 6 reprises, dont 2 à la tête. Un certain nombre de stigmates associés à la figure du délinquant structurent le travail des policiers. Ainsi, en 2008, les conducteurs noirs avaient 3 fois plus de risques d'être fouillés lors d'un contrôle routier que les blancs, selon un rapport du département de la justice. 70% des villes où la population noire représente au moins 5% de la population totale connaissent une sous-représentation des noirs dans les effectifs de la police par rapport aux blancs. Dans ce contexte, les contrôles aux faciès effectués quotidiennement dans les quartiers où vivent les minorités. La ségrégation résidentielle reste largement dominante, entame les relations entre les policiers et minorités, en particulier les jeunes hommes noirs et latinos. On a un nombre de contrôles d'identité à New York en 2012, donc 284 000 sur des personnes noires, 165 000 sur des personnes hispaniques, 50 000 sur des personnes blanches. Donc voilà, après il y avait la population notamment de New York et les proportions ne sont pas autant voilà par rapport à ces contrôles. Un autre cas, hein, Frayvon Martin, noir, 17 ans, abattu dans la rue par un vigile qui le suspectait de vouloir commettre un cambriolage parce qu'il portait un pull à capuche. Il n'était pas armé, un paquet de bonbons avait été retrouvé dans sa poche. Voilà, encore un exemple, hein, la déshumanisation des enfants et des adolescents noirs, selon une étude récente publiée par l'Association américaine de psychologie, explique les disparités raciales dans les condamnations ainsi que l'usage disproportionné de la force à leur rencontre. Ainsi, les enfants noirs sont systématiquement perçus comme plus âgés, 4,5 ans en moyenne. Cela a pour conséquence que les enfants noirs ont 18 fois plus de risque d'être jugés comme des adultes que les enfants blancs. Une fois en prison, les enfants jugés comme des adultes ont 2 fois plus de risque de subir des violences de la part d'un gardien, 5 fois plus de risque d'être agressés sexuellement et ont 8 fois plus de risque de se suicider. La politique d'incarcération massive menée depuis 4 décennies principalement dans le cadre d'une guerre contre la drogue a ainsi majoritairement affecté les noirs qui connaissent des taux d'incarcération supérieurs et des peines plus longues. Ainsi, pour 2 Américains blancs, 11 Américains noirs sont incarcérés. Donc voilà pour ce petit article un peu long, mais sur les violences policières, tout en sachant que, voilà, qu'on commence de plus en plus à prendre modèle sur cette organisation policière-là en France. Hein, voilà, avec l'armement de plus en plus présent des policiers, les violences policières qui redoublent, les morts dues aux interventions policières aussi. Donc voilà, donc ça permet de faire un peu lien avec ce qui se passe aussi ici en France. Donc voilà, on se fait une petite pause du coup.
On va faire une pause musicale. On va écouter les doléances de la jeunesse. Je vous dis pas qui l'interprète, c'est sur le CD Les Chants de la Liberté. Wow, ça fait 5 minutes, c'est pas mal. Vous allez écouter ça.
Jeunesse égarée dans le labyrinthe des contraintes et de l'ennui, dans le cloaque des pollutions et des répressions, de l'exclusion et de la misère. J'ai 15 ans, ma chère, 15 ans étouffés. Vous ne songez guère à m'émanciper. J'ai 20 ans, ma chère, 20 ans enchaînés. Vous ne songez guère qu'à me salarier. J'ai 30 ans, ma chère, 30 ans précarisés. Vous ne songez guère qu'à me RMiser. J'ai 15 ans, ma chère, chômage assuré. Vous ne songez guère. Ma chère, bourgeois
J'ai 20 ans, ma chère société. Jeunesse perdue à gagner sa vie, comme ils disent. Vie gâchée, aliénée, à force d'être achetée, exploitée, embrigadée, emprisonnée, vendue, exclue.
J'ai 20 ans, ma chère bureaucrate manœuvrier. Ne songez guère qu'à nous diviser. J'ai 15 ans, ma chère télépublicité. Vous ne songez guère qu'à nous conditionner. J'ai 30 ans, ma chère terre suppliciée. Songez guère qu'à nous polluer. J'ai 15 ans, ma chère, chère atomisée. Ne songez guère qu'à nous irradier. J'ai 20 ans, ma chère, vive l'état policier. J'ai cœur qu'à nous réprimer. J'ai 30 ans, ma chère, guerre, atrocité. Où ne songez cœur qu'à nous massacrer.
J'ai 30 ans, ma vieille société, mais pas le temps d'aimer. Vous ne songez guère qu'à nous faire travailler.
Notre temps, une fois vendu, ne nous appartient plus. Pour l'amour, la vraie vie a tout jamais perdu.
J'ai 30 ans, ma chère, flicage informatisé. Et vous ne songez guère qu'à nous vidéosurveiller.
J'ai 15 ans, ma chère, banlieues incendiées.
J'ai 20 ans, ma chère, avenir cassé. Ne songez guère qu'à nous emprisonner.
J'ai 15 ans, ma chère, dans le règne des objets.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute donc d'Idées Noires, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et nous allons passer du coup à la page lutte sociale.
Et il y en avait, malgré les fêtes.
Malgré les fêtes, heureusement.
Il y en avait surtout en dehors des frontières, enfin en dehors de la France, hein, parce que je vais faire une lutte, des luttes pas si étrangères, donc une rubrique que je vais plus ou moins abandonner, vu qu'en France, ben... Il y en avait pas mal, donc lutte pas si étrangère, on va aller en Algérie avec les travailleurs de l'entreprise EATIT, qui fait dans une société qui fait dans le textile industriel, c'est à Dra Ben Kedda, qui ont donc ces travailleurs et travailleuses manifestés et grévés. Leur salaire n'a pas été versé en novembre. Il et elle exigent donc le respect du délai de versement pour ce mois de décembre. 3 sites sur 5 ont subi ce genre d'avatar, donc de ne pas être payés. Une amélioration du fonctionnement est exigée avant de reprendre la production. En Allemagne, avec plusieurs manifestations et actions contre le racisme et la xénophobie dans plusieurs villes,
notamment en basse Saxe, à Bad Bevesen, où il y a 10 000 habitants. Donc plusieurs organisations ont appelé à cette manifestation, à ces manifestations. Il y a la Confédération syndicale DGB et aussi des groupes Antifa donc, qui ont appelé à cette lutte. 500 personnes ont répondu après l'incendie d'un foyer qui devait accueillir 200 personnes. En Irak, plusieurs manifestations à travers le pays, dans des villes comme Bassora, Nasiriya et Hilla. Des milliers de personnes ont pris part à ces manifestations pour dénoncer la corruption, les divisions sectaires et la chute de 3% des salaires dans la fonction publique et la chute également des retraites. En Turquie, ça a été des manifestations de soutien aux villes kurdes attaquées soit par l'État turc, soit par Daesh, qui ont été ces manifs ont été violemment réprimés par la police turque. Plusieurs blessés et des arrestations, notamment à Van. En Algérie encore, sur le chantier du téléphérique de Tizi Ouzou, avec une grève illimitée par des dizaines de travailleurs de l'UGTA, c'est l'Union Générale des Travailleurs Algériens, hein, pour tout dire, donc un rassemblement a été organisé, colère bien sûr, les salaires ici aussi n'ont pas été versés depuis 3 mois, est exigé aussi la réintégration de 3 ouvriers licenciés arbitrairement. La direction de l'entreprise CSNC Bapiva est dans le collimateur des grévistes. Toujours en Algérie, avec une grève du personnel technique de Air Algérie, avec l'UGTA toujours et un syndicat autonome qui devait rencontrer donc la direction. Alors ce qui blesse ici, c'est le favoritisme. Qu'est-ce donc ? La direction a accordé une augmentation au seul pilote de la compagnie après entre guillemets une entrevue avec le syndicat SPLA, c'est le syndicat des pilotes de ligne. Un arrangement à l'amiable avait été conclu, d'où évidemment la colère du personnel technique. Au Zimbabwe, avec une grève chez les ouvriers dans la production de sucre Tongar Ulet. Cette grève a démarré le 27 novembre. 16 000 salariés pour des salaires décents à $300 par mois contre 130 aujourd'hui. Ici comme ailleurs, la direction exige la reprise du travail pour prendre des décisions. Chantage refusé en masse par les ouvriers qui, au 20 décembre, bloquaient les accès du site de production. On revient sur l'Allemagne, c'est chez Amazon, en Allemagne, donc on connaît tous et toutes Amazon, évidemment, la vente en ligne, le e-commerce, autrement dit, et le syndicat Verdi a appelé 450 salariés qui font partie de 2 équipes le 19 décembre à gréver sur le site de Leipzig pour les salaires, les conventions collectives du commerce. D'autres actions ont eu lieu aussi comme à Bad Hersfeld et Graben. C'était à la mi-décembre. On reste encore en Allemagne, chez Real, qui est une ligne de supermarché du groupe Metro, avec une grève contre une baisse drastique des primes qui verrait une perte sèche de 8 000 euros par an pour un salaire de base de temps plein à 32 000 euros annuels. 22 magasins en Bavière sur 7 villes ont été touchés. Voilà pour ce qui est de cette page donc des luttes pacifistes étrangères. Donc on va revenir sur l'Hexagone avec l'ADAPEI. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Mm-hmm. L'ADAPEI, même éventuellement l'Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales, hein, si je ne me trompe. Alors cette association serait en difficulté de finances. De ce fait, ce sont les salariés qui trinquent, les éducateurs, accompagnateurs, etc. La CFDT, la CGT, la CFTC et les travailleurs dénoncent les conditions de travail de plus en plus exécrables au sein de cet organisme. Et c'est le cas dans le département 79, à Niort notamment, où les syndicats ont quitté le comité central centrale d'entreprise, faute de solution trouvée avec la direction. Ils ont communiqué publiquement les difficultés des salariés. Ils sont quand même 1300 personnes et 2400 patients et patientes accueillis dans une quarantaine d'établissements sur ce département. Il y a également au programme, je dirais, de cette colère, la baisse de budget, évidemment, qui touche la formation et le remplacement des personnes absentes. Dans le 95 maintenant, c'est à Argenteuil et à Beson, c'est une banlieue proche de la capitale. Il y a une grève chez AB Habitat, un office d'HLM, donc un organisme HLM, où le climat est délétère selon la CGT, qui a déposé le préavis de grève pour le lundi 21 décembre, jour où se tenait le dernier conseil d'administration de AB Habitat. En effet, l'organisme est absorbé, on va y arriver, je tousse pas, mais alors je bafouille, par la coopérative Seine Accession. Ça sera donc pour le 1er janvier, donc bientôt. Cette grève arrive pour dénoncer les promesses non tenues du directeur général de AB Habitat envers les salariés. Manœuvre qui, selon la CGT, remet en cause, évidemment, avant la reprise, les acquis sociaux des salariés. Dans la série non exhaustive des conditions de travail dégradées, il y a un petit nouveau qui vient allonger donc la liste des entreprises de cet ordre. C'est le resto Hippopotamus, la chaîne située à Toulouse, Blagnac et à Roc, du groupe Flo. Les salariés sont salement traités, conditions de travail, contrats précaires, des licenciements quand ta gueule ne plaît pas. Bref, il y a eu grève. Déjà en août, une grève avait amorcé donc celle-ci. En août dernier, donc, pour dénoncer les violences patronales. Une enquête du cabinet Secafi a mis en évidence pas mal d'anomalies dans les fonctions de chaque employé, selon la CGT. Le 20 décembre, les salariés se sont rassemblés devant le resto de Toulouse pour dénoncer, outre leurs exaspérations, dénoncer un plan social déguisé en Père Noël. Et pour rester un tantinet dans le lourd à digérer, dans le bien gras patronal, dans l'épais, je vais parler de ce 26 décembre et de Imani. On en a déjà parlé quand même assez longuement ici. Imani, c'est ce délégué syndical CGT de la restauration rapide, pour ne pas les citer McDonald's, qui a été la victime une nouvelle fois de la vindicte crapuleuse de la direction, du restaurant de la Guillotière, qui est en même temps le patron aussi de celui de Vénissieux et de Sans Souci, si je ne me trompe pas. Contre cette direction, contre laquelle, avec les salariés, ils luttent Imani pour des meilleures conditions et le respect des droits syndicaux. Précisément, ce 26 décembre, Imani a fait l'objet d'une nouvelle répression sur le lieu de son travail. La direction lui a fermé la porte au nez, si on peut dire. Elle ne s'en est pas tenue qu'à ça, puisque cette énorme bourde, évidemment, cette énorme faute, c'est une énorme faute. Ils ont appelé les flics, carrément. Et Imani a été fouillé devant ses collègues. Il y a eu également des menaces d'arrestation envers sa personne et des menaces de remettre son identité à la DGSI. Menaces, bien sûr, au relent d'antisyndicalisme et de racisme. À Caen, cette fois, ce sont les pompiers, ces fois, qui sont en colère. Donc, le corps des sapeurs-pompiers de l'agglomération qui font leur mauvaise tête. Grève reconduite en ce 29 décembre. Elle a démarré que le 28, certes. Ceci dit, ça a démarré à la caserne qui répond au joli nom de Folie Couvre-Chef. Faut aller le chercher, celui-là. Folie Couvre-Chef. Donc, c'est un quartier de Caen, apparemment. Alors, qu'est-ce qui fait souffrir ici? C'est un réaménagement du temps de travail. La lutte dure quand même depuis 18 mois. Une plainte a été déposée contre la chefaillerie pour harcèlement moral. Et puis, pour terminer donc cette page de lutte ce soir, avec un mouvement de grève qui a débuté le 26 décembre pour finir le 29, c'est au Mont-Saint-Michel. hein, où on va chercher donc les grèves, hein, pour pas aller bien loin. Donc c'est au Mont-Saint-Michel, où 13 salariés qui sont des agents d'accueil souhaitent une amélioration de l'accessibilité à leur lieu de travail. C'est vrai, quand on voit le Mont-Saint-Michel, on se demande comment on peut y accéder. Ben voilà, eux, ils en connaissent un peu les conséquences. Et bien pour ça, par exemple, ils réclament un abribus qui serait le bienvenu. Et l'amélioration, évidemment, des conditions de travail, toujours. Et là, ce serait quand même un gros plus pour eux. Voilà, pour ce qui est des luttes de ce soir. Enfin, du moins de cette semaine.
Une deuxième petite pause musicale, ça repose la voix. On essaiera de finir correctement. Donc c'est J'aurais voulu avec Paranoïa Urbaine. On peut lancer.
Idées noires jusqu'à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes sur ce 102.2 de Radio Canu. Et on va
jusqu'à 21h si on y arrive.
Oh, si on n'y arrive pas, ce ne sera pas dramatique.
Ouais, ouais, c'est pas très grave non plus. On va faire un petit tour en Espagne avec de la tristesse et de la colère après le suicide d'un ado trans. Les associations LGBT espagnoles mettent en cause les autorités après le décès d'Alan, 17 ans, victime selon elle de harcèlement scolaire. Des manifestations d'hommage à Alan et de protestations contre la transphobie se sont déroulées donc dimanche dans une dizaine de villes espagnoles, de Barcelone à Séville, en passant par La Corogne, Madrid ou encore Las Palmas. Le suicide de cet ado de trans de 17 ans à la veille de Noël a provoqué une vague d'émotions à travers le pays. Alan était l'un des premiers mineurs à obtenir un changement d'inscription de son état civil en Catalogne, il y a quelques semaines seulement. La municipalité de Rubí, où il vivait, a décrété une minute de silence en sa mémoire ce lundi à midi. C'est sa mère qu'il soutenait dans sa transition qui a annoncé le décès d'Alan sur les réseaux sociaux. Son fils, selon elle, n'en pouvait plus de la pression de la société et il nous a quittés pour toujours. Le garçon souffrait de harcèlement dans son institution éducative et faisait face à l'incompréhension des autorités scolaires, accuse l'association Chrysalis, un collectif espagnol qui réunit 200 familles de jeunes trans. Il avait dû être transféré en hôpital psychiatrique pour dépression, d'où il était sorti afin de passer les fêtes en famille. Il n'y a pas de mots pour accompagner cette douleur ni exprimer l'indignation, la frustration et la honte face à des administrations qui n'arrivent jamais à temps, qui sont toujours en retard par rapport aux besoins de l'enfance et de l'adolescence transsexuelle, a écrit Chrysalis dans un communiqué. Donc voilà, malheureusement, ça fera encore un an de plus de personnes trans ou en transition mortes voilà, pour cette année 2015. Et on voulait aussi vous lire le témoignage trouvé là sur un blog, témoignage de Rachid Stali. Voilà, son parcours est loin d'être un cas isolé et pourtant son histoire est celle de millions de travailleurs et travailleuses dans l'ombre. Si assumer sa sexualité lorsque celle-ci ne correspond pas à la norme hétérosexuelle reste un parcours du combattant dans toutes les couches de la société. Ceci est d'autant plus dur lorsqu'on est ouvrier et que les patrons s'en servent pour nous humilier et nous maintenir sous leur domination. Malheureusement, l'histoire des personnes LGBTI dans la classe ouvrière a souvent été aussi celle de la marginalisation de leur lutte au sein de certaines organisations du mouvement ouvrier. Par exemple, l'homosexualité a été pour les appareils staliniens, jusque dans les années 70, une tradition étrangère à la classe ouvrière. Or, comme le récit de Rachid le montre bien, la classe ouvrière est aussi gay, lesbienne, bisexuelle, trans, intersexe, etc. Voici un récit de vie et de lutte contre un système qui exploite, opprime et répand son idéologie dans tous les recoins de la société. De quoi donner du courage à l'ensemble des travailleurs et travailleuses dans leur lutte de tous les jours et celles qui sont à venir. Voici le témoignage de Rachid. Mon père est arrivé d'Algérie en 1947. Il a d'abord travaillé dans les mines du Nord de 1947 à 1951, puis chez Ford électroménager, puis chez Porcher, fabricant d'équipements sanitaires, chez qui il a fini sa carrière. Il s'est marié en 1959 avec ma mère, avec qui il a eu 4 enfants. Je suis le deuxième, né en 1961, un an avant la guerre d'Algérie. À l'âge de 16 ans, je savais déjà que j'étais différent. À 14 ans, j'avais des copains du quartier avec qui on se posait sur l'herbe d'été parce qu'on n'avait pas d'argent pour partir ailleurs. Tout le monde pense qu'à 14 ans, on s'intéresse aux filles, mais moi, je regardais les garçons. Alors que mon frère regardait toujours sous la jupe des filles, je me demandais « mais est-ce que je suis normal ?» Dans ma tête, je me disais que j'avais un problème. À l'époque, j'étais apprenti pâtissier en alternance. J'allais à l'école 3 semaines, puis 3 semaines, j'étais en stage. On commençait le travail à 4h du matin au lieu de 6h. Le patron disait qu'il fallait fermer sa gueule et les autres employés étaient aussi très désagréables. En fin de compte, j'étais traité comme un esclave. Je travaillais 6 jours sur 7 et je n'étais même pas payé. Au bout des 3 semaines de travail, on me donnait comme salaire, entre guillemets, 2 tartes et une brioche. Quand je rentrais à la maison, mon père était écœuré parce qu'il voyait que son fils, un fils d'émigré, se faisait humilier au travail. Durant ces années, je ne montrais aucun signe de qui j'étais au fond, même si j'avais un penchant pour un copain du quartier. Chaque fois que je le voyais, je vibrais, mais je ne pouvais pas l'exprimer par peur du « qu'en dira-t-on ». Les choses se sont compliquées quand je suis rentré dans le monde du travail. Mon père m'avait fait embaucher chez Porcher en 79, j'avais 18 ans. Le samedi, on sortait en discothèque avec des copains du quartier, et pour montrer que j'étais comme eux, je dansais avec des filles, et il m'arrivait même d'en embrasser. Mais je le vivais mal parce que je savais que j'étais différent. Un jour, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit « je suis pédé, mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Il y avait une peur par rapport aux autres. Tu as 18 ans, tu as peur de ton futur. À l'usine, chaque fois que j'ouvrais mon placard, on me demandait pourquoi je n'avais pas de photos de filles nues comme tous les autres. Dans la classe ouvrière, on a beaucoup de ces photos. Les autres me disaient « t'as vu la belle chatte ?» Je ne disais rien, j'en avais rien à foutre. Les autres me disaient « t'as vu la belle chatte ?» J'étais totalement indifférent. On me demandait « ce week-end, c'était comme en discothèque ? T'en as baisé beaucoup ?» Je disais que oui, que j'avais beaucoup flirté. C'était pas possible de dire que j'étais
homo, surtout quand tu habitais dans un petit bled comme le mien. Les choses se sont empirées quand un collègue a commencé à me dire tous les lundis « ça va, Artail ?» qui veut dire « PD » en arabe. Je répondais « ferme ta gueule », mais ça me faisait mal parce que c'était la vérité et j'étais obligé de me protéger. Je suis parti faire mon service militaire en Algérie de 84 à 86 et ça a été très compliqué. À la caserne, j'étais entouré de beaux garçons, mais je me retenais. Je savais qu'à la caserne, il se passait des choses. Je savais que l'homosexualité était présente. J'étais tout le temps partagé entre le désir et l'abstinence. Pendant le ramadan, j'ai même dû repousser un garçon parce que je ne voulais pas que ça se sache. Et pourtant, il était très beau. Une fois que je suis rentré en France, j'ai enchaîné différents boulots. J'ai travaillé quelques années dans un fast-food à Paris. Puis je suis parti ensuite en Savoie pour travailler sur les chantiers des JO pendant 2 ans. Finalement, en 93, j'ai rencontré quelqu'un, un Africain bisexuel, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'assumer. C'est là que ma vie sexuelle a commencé. Je pense que les ouvriers aussi ont droit à une sexualité et aussi droit au bonheur. La classe ouvrière doit être aussi heureuse. Avec le recul, j'ai des regrets parce que j'aurais dû m'assumer plus tôt, mais la situation ne me le permettait pas, surtout en province et dans un petit bled. Dans ma famille, on commençait à se demander pourquoi je n'étais pas marié, alors que tout le monde était casé et avait des enfants. Ils voulaient me voir comme eux. À un moment donné, je commençais à être asphyxié par les questions et les histoires de mariage. J'ai donc décidé de faire mon coming out. Je l'ai d'abord annoncé à un de mes frères. À l'époque, j'étais très amaigri. J'avais l'air malade. C'est pour ça que mon frère a eu peur quand je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui dire. Il a pensé que j'allais lui annoncer une maladie. Mon autre frère, qui travaille à la SNCF, qui est quelqu'un de très sensible, s'est mis à pleurer en disant que je serais toujours son petit frère, mais qu'il avait peur des agressions possibles, qui à l'époque étaient monnaie courante, mais qu'ils sont toujours malheureusement, et des conséquences auprès de la famille ou dans le quartier. Quant à mon père, il est décédé avant mon coming out. C'était bien sûr une grande douleur, mais je suis content de ne pas lui en avoir parlé. Je ne voulais pas le blesser. Mes frères étaient d'accord, je ne sais pas comment il aurait réagi. En 2005, je suis arrivé dans les cuisines d'un établissement de l'enseignement supérieur. Le chef avait l'air sympa au début et les collègues aussi. En 2007, il savait tous que j'étais homo et le chef disait que ça ne lui posait pas de problème, mais ce n'est pas vrai dans le fond. La suite l'a montré. Il m'invitait dans son bureau où il me montrait des images porno sur son ordinateur pour voir ma réaction, ou parfois il me poussait sur une collègue en disant « vas-y ». Mais je fermais ma gueule parce que j'étais en CDD. J'étais le PD de service et ils me le faisaient tous savoir. Tout ça parce que j'étais précaire. Si je n'avais pas été précaire, je ne me serais pas laissé faire. Et la direction de l'établissement n'a rien fait pendant des années. C'était vraiment pire qu'à l'usine. Un jour, après une première assemblée générale, une grève éclate. Je croise le chef et je dis « Bonjour chef, vous allez bien ?» Il me répond « Ça va petit PD ?» Le masque était tombé. Il se servait de ma précarité et de ma sexualité pour m'écraser. Il s'en prenait à moi parce que j'avais décidé de faire grève. Cette grève contre la précarité a aussi servi à dénoncer cette hiérarchie. Des gens étaient en souffrance dans le service parce que le chef était aussi sexiste et raciste. Il fallait qu'il parte. À la fin, on a gagné la grève. On a obtenu des CDI et le chef est parti. Malheureusement, il a seulement été muté de service. Il est toujours là quelque part. La classe ouvrière a droit au bonheur. On doit défendre la diversité entre les travailleurs et être heureux, c'est important. Il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc voilà pour le témoignage de Rachid. Un petit coup d'eau et puis on repart pour un tour.
Bien entendu.
Donc oui, la semaine dernière, je vous avais lu un petit peu des petits fascicules qui sont écrits là, qui s'appellent « Répondre aux préjugés ». On avait fait 2 premiers la semaine dernière, je propose le 3e ce soir, « Répondre aux préjugés par rapport aux migrants hein, ». Et donc ce 3e petit fascicule s'appelle « C'est si facile de venir en France », 3 petits points. Donc pourtant de français, hein, quand elle est tapée dans ce fascicule et bien d'autres, la France serait devenue une véritable passoire, incapable de contrôler ses frontières. Tout le monde aurait la possibilité de venir en France et de s'y installer. D'ailleurs, Françoise le dit elle-même, hein, il suffit à un étranger de venir en touriste ou sous le prétexte d'étudier pour rester chez nous toute sa vie. Étrange perception, quand ce pays s'évertue jusqu'à aujourd'hui à limiter toute forme d'immigration et qui donne des consignes à ses administrations pour dissuader les migrants de venir sur son territoire. En 2012, 5000 Français auraient quitté la France pour payer moins d'impôts en 2013. Les capitaux circulent librement, mais pas les personnes. Depuis l'ordonnance du 2 novembre 1945 et plus encore ces dernières années, les gouvernements français modifient en permanence les lois qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile. Sous couvert de lutter contre l'immigration clandestine, il s'agit en vérité de réduire le nombre d'immigrés en limitant l'accès au séjour légal des étrangers qui construisent leur vie en France. Dans un contexte de crise, crise économique et sociétale, les gouvernants, incapables d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les personnes, utilisent l'incertitude et la peur pour asseoir leur autorité en désignant des coupables. Cette tendance ne s'observe pas seulement en France. Depuis l'année 2000, les gouvernements européens essayent d'avoir des règles communes en matière d'intégration entre guillemets des immigrés réguliers, de protection des demandeurs d'asile et de gestion des frontières. Mais au lieu de construire une politique européenne d'intégration, les gouvernements se sont attachés jusqu'à aujourd'hui à réduire toutes les formes d'immigration, y compris légales. Les travailleurs, les réfugiés, les malades, les étudiants, les candidats au regroupement familial. Ils dépensent d'ailleurs des fortunes pour éloigner les étrangers en situation irrégulière en utilisant des moyens réellement inhumains. allongement de la durée de rétention des étrangers, expulsion par charter, souvent vers un autre pays que celui d'origine, interdiction de revenir sur le territoire européen pendant 5 ans, fichage de tous ceux qui franchissent les frontières, etc., etc. Une situation qui pourrait perdurer malgré de modestes annonces d'assouplissement dans la gestion des migrations par l'actuel gouvernement. On sait que c'est pas le cas du coup. À ce jour, l'étranger qui souhaite régulariser sa situation entame un parcours du combattant. Pour demander un titre de séjour, il faut d'abord déposer sa demande en préfecture ou dans un commissariat de police. Cela signifie des heures d'attente interminables devant les administrations. Si le demandeur n'a pas dormi sur place ou campé depuis 4 heures du matin, il risque, après 4 ou 5 heures d'attente, d'être, entre guillemets, invité à revenir une autre fois. Il peut ensuite attendre 6 mois ou un an avant qu'il ne soit convoqué par la préfecture de son département avec tous ses justificatifs. La constitution d'un dossier est un vrai casse-tête, les préfectures exigeant toujours plus de pièces, compliquées à obtenir. Pour le titre de séjour des 10 ans de présence en France, l'administration demande au moins 2 preuves par an, soit 20 documents au total, mais pas n'importe lequel. Lesquels ? Les attestations délivrées par des personnes soupçonnées de complaisance ne sont pas acceptées. Quand le demandeur a enfin réuni toutes les preuves et que le rendez-vous à la préfecture arrive, il doit encore patienter de longues heures, la peur au ventre, car ce sont les agents qui décident d'accorder ou non le droit au séjour, selon des critères assez opaques. Les mêmes obstacles se présentent chaque année lorsque le demandeur renouvelle son titre de séjour, l'attente devant les préfectures étant accentuée par l'angoisse de ne pas savoir s'il obtiendra le renouvellement du précieux sésame. Quand on a un jour traité avec ces administrations, on ne peut plus dire qu'il est facile de s'installer en France. Quand un étranger quitte son pays pour des raisons politiques, qu'il craint des persécutions ou même la mort à cause de ses opinions ou de ses activités, il peut demander le statut de réfugié dans le pays d'accueil. Ce statut lui ouvre normalement des droits spécifiques, allocations, hébergements, droits sociaux, encadrés par la Convention de Genève de 51 qui défend et protège les persécutés. Le droit d'asile est un droit inaliénable, mais depuis une vingtaine d'années, les gouvernants font tout pour le malmener. La France est le 4e pays d'accueil de demandeurs d'asile en Europe. Sur 64 000 demandes enregistrées en 2014, elle n'a accordé le statut de réfugié ou de protection internationale qu'à 22% d'entre eux. C'est moins que son voisin allemand ou que les pays nordiques. Dans la pratique, la suspicion est devenue la règle et doit permettre de reconnaître entre guillemets le fraudeur, c'est-à-dire celui qui vient pour des raisons économiques, malheureusement. Le candidat doit remplir un formulaire de 16 pages en un temps réduit, 21 jours, et fournir des arguments très construits en français pour motiver sa demande, sans quoi celle-ci ne débouche même pas sur un entretien oral. Les agents ont pour consigne de chercher les contradictions et les imprécisions dans le récit des demandeurs pour les discréditer. Si la première demande est refusée, un recours est possible, mais celui-ci nécessite des frais pour s'assurer la présence d'un avocat, sans lequel il n'a aucune chance d'obtenir l'annulation du rejet. Au lieu de sélectionner les candidats par rapport aux menaces qui pèsent sur eux dans leur pays d'origine, on assiste donc à une sélection par le niveau d'instruction, haute difficulté, le temps d'attente. En 2011, la durée moyenne du délai d'instruction des dossiers de 19 mois. La loi relative à la réforme du droit d'asile 2015 a abaissé ce délai à 9 mois. Un délai qui reste long, surtout que les candidats ne sont pas autorisés à travailler pendant ce temps-là et que les dispositifs d'hébergement sont mis à mal par les capacités insuffisantes des centres d'accueil. Peut-on encore parler de droit d'asile ? Donc voilà pour cette troisième petite fiche, pour détruire les préjugés, répondre aux préjugés, notamment par rapport aux migrants et aux migrantes. Et je propose qu'on s'arrête bientôt, parce que ce que j'avais d'autre après, c'était un petit peu long.
Oui.
Donc voilà, on va faire un petit point sur les prochaines émissions. Voilà. Et puis on va relancer.
On a rempli notre contrat, n'est-ce pas?
Voilà.
Rappeler que, pour ce samedi, il n'y aura pas de permanence quand même. S'il y a des gens qui nous écoutent, des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui souhaitaient nous rencontrer à la Plume Noire, comme on le dit à chaque émission, pas ce samedi.
Ce sera pour une autre fois.
Le premier samedi de 2016, en fait. Et même le mercredi, puisqu'on a une permanence le mercredi de 17h à 19h.
Donc voilà, après, si vous voulez tenir aux infos, vous pouvez aller sur notre site, cgalion.wato.org. Il y a aussi la page Facebook et le Twitter, et donc voilà, n'hésitez pas à passer donc lors des permanences pour discuter un peu avec nous si vous êtes intéressé, notamment pour vous impliquer sur une lutte, et puis nous on continuera à être là tous les mercredis soirs sur Idées Noires et Radio Canule 102.2 les mercredis de 20h à 21h. Voilà, pour vous donner un peu notre vision de l'information, vous parler de choses peut-être que vous n'entendez pas ailleurs, et continuer un peu tout ça.
Sûrement, je pense,
voilà. Et puis on vous souhaite un bon réveillon peut-être pour demain, et puis on se retrouve mercredi prochain.
Voilà.
Bonne soirée.
Allez, bonne soirée. C'est bon ?
Chano. J'ai tourné sur la tête, pas plus de 10 secondes. J'ai donc lâché le break et rimé sur le monde. Influencé par ceux qui tournaient sur les